France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Pour ce dernier tour d'horizon dans le département des Pyrénées-Atlantiques, nous allons dans un massif montagneux à landes et pelouses bien vertes qui laisseraient croire que la peinture n'est pas encore sèche sur le tableau. Il s'agit du massif de Baïgoura dans le village de Macaille où a été installée la première miellerie collective du Pays Basque. Notre guide est lui-même apiculteur et profite des services de cette maison. Nous serons ensuite dans le Tarn pour rejoindre une antenne de la Fève, association de la Fondation étudiante pour la ville. Cette association qui a dépassé le cap des 30 ans a prouvé son efficacité dans l'accompagnement par des étudiants de jeunes en difficulté scolaire et sociale.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Éric Kamenthaler, bonjour.
Bonjour.
Encore une histoire originale, une histoire de reconversion. Vous, l'homme d'Alsace qui arrive au Pays Basque pour faire des fouilles archéologiques, puisque vous êtes archéologue, vous allez rencontrer madame, archéologue également, mais alors vous allez créer une miellerie, ça n'a plus rien à voir.
Ben non, après quelques années de travail en archéologie, ben on a décidé de modifier notre mode de vie et de continuer à travailler dans la terre, puisqu'on est devenu paysan. On a des abeilles et également un atelier de safran sur notre ferme.
Vous êtes porteur d'un projet qui serait la première, enfin qui est d'ailleurs, la première miellerie collective du Pays Basque, qui s'appelle Esti Etxea, autrement dit la maison du miel en basque, que vous avez inaugurée sur la commune de Macaille, qui s'adresse à quel type de producteur?
Alors en fait, on n'a pas du tout voulu sélectionner, donc on a ouvert nos portes à tout le monde, aussi bien les professionnels que les plus réactifs ou les apiculteurs de loisirs, soit en agriculture biologique ou conventionnelle. Alors bien sûr, ça a des contraintes, mais on est tous prêts et on doit les accepter pour bien cohabiter.
D'habitude, un producteur, un apiculteur amateur extrait le miel dans quelles conditions? Parce que là, on va parler des conditions que vous proposez, évidemment.
Eh bien, souvent, l'apiculteur de loisirs, il extrait chez lui. Et donc, il a pas toujours un endroit qui est bien adapté à recevoir des ruches avec quelques abeilles qui peuvent rester, et puis dans des conditions d'hygiène qui sont pas toujours optimales pour la production alimentaire.
Oui. Alors que là, la miellerie, évidemment, on a tout le matériel sur place. Il est proposé sous quelle forme? Sous forme de location? Il y a un loyer, une participation financière?
Oui, en fait, le financement de la miellerie a permis d'acquérir le matériel, d'occuper les locaux et de les réhabiliter. Mais pour l'avenir, on sait que nos machines vont s'user et qu'il va falloir les remplacer. Du coup, pour créer un bas de laine qui va nous permettre de durer dans le temps, eh bien, chaque personne qui vient extraire paye une cotisation qui va permettre de payer les charges fixes, mais également d'anticiper pour l'avenir.
Oui. Alors, on vient avec les hausses des ruches?
Oui, c'est ça. Chacun vient avec ses hausses, chacun possède son cheptel, on y extrait le miel et on repart avec son miel. La miellerie ne possède aucune production.
Ouais. Il faut identifier quand même, parce que si j'ai bien compris, dans la production du miel, il y a un temps de repos du miel une fois pressé.
C'est ça. Mais ça, chacun le fait chez lui. On a certains apiculteurs qui sont en agriculture biologique. Il faut absolument éviter tout risque de confusion. Et donc, pour limiter au maximum le risque, chacun repart le jour de l'extraction avec son propre miel.
Éric, il y a quel projet derrière? Parce que là, c'est un service que vous proposez, donc à la fois aux amateurs et aux professionnels. Est-ce que vous envisagez, par exemple, de créer une marque collective?
Non, c'est pas l'idée. L'idée, vraiment, c'est de proposer un service technique pour que chacun puisse travailler dans les meilleures conditions possibles, mais également pour qu'on puisse se rencontrer. L'apiculteur, il est assez seul, et l'idée, c'est de se rencontrer, d'échanger sur nos pratiques, sur les difficultés qu'on rencontre et les solutions qu'on peut y apporter.
On peut peut-être se former auprès de vous aussi?
Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, pour financer la miellerie, on avait proposé des formations d'apiculture de loisirs. Donc, on a une soixantaine de personnes qui ont été formées auprès de membres de l'association. Et toujours possible, auprès de membres de l'association, de trouver des formations.
Alors, chez vous, on trouve non seulement du miel, mais aussi évidemment des produits à base de miel ou de cire d'abeille, des bougies. Puis il y a du savon, du baume à lèvres aussi, si vous le voulez, puisqu'il y a différentes réalisations à partir de la production des ruches. J'ai pas demandé, vous avez combien de ruches, vous, Eric ?
Moi, j'ai 200 ruches, ce qui est le minimum pour être apiculteur professionnel. Par contre, comme vous venez de le dire, je valorise tout ce qui sort de mes ruches. Je ne jetterai rien. Donc, ça permet, avec 200 ruches, de tirer un revenu honorable.
La miellerie collective continue à accueillir de nouveaux adhérents ?
Ah oui, bien sûr, puisqu'en fait, comme on a démarré l'an passé, on espère que d'autres apiculteurs du coin nous rejoignent et viennent extraire le miel chez nous. Mais également, parmi les personnes qui se sont formées, un certain nombre ont émis le désir de pouvoir se regrouper pour installer des ruches ensemble. Donc on est en train de finaliser la création d'un rucher partagé qui va permettre aux nouveaux apiculteurs de démarrer ensemble.
Esti Etxea, c'est le nom de la maison du miel, la première miellerie collective du Pays Basque à Macaï. Merci Eric.
Merci, bonne journée.
France Inter, carnet de campagne.
Anaïs nous confie dans son courrier des informations sur une association qui soutient les femmes du Pays Basque qui souhaitent entreprendre. Elle s'appelle Andere Naya, à traduire par volonté de femme, créée par des femmes pour des femmes. Cette association revendique les valeurs de l'économie sociale et solidaire et elle le prouve en mutualisant tous les moyens dont elle dispose pour aider les femmes à créer leur activité au Pays Basque, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Les services commencent par l'aide au montage du projet. Ils se poursuivent par des ateliers pratiques sur le maniement des outils numériques, par exemple, ou sur le visuel de l'activité en projet. Il y a des permanences juridiques qui permettent d'aborder les questions de droit des affaires et puis des rendez-vous mensuels sont organisés entre les adhérentes de l'association. L'ensemble repose sur le bénévolat grâce au soutien, entre autres, de la région. En 2020, l'association a monté un programme baptisé « Ensemble pour une égalité paysanne » afin de faire entendre les paroles des agricultrices ou des éleveuses auprès des collectivités et des organismes agricoles. Le site, c'est anderenaya.asso.fr. Nawel Bensetti-Viguier, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, on va parler de la fève et donner des nouvelles de cette association, la Fondation étudiante pour la ville. C'est d'abord une association qui propose à des étudiants bénévoles de devenir des mentors de plus jeunes sur un accompagnement, en particulier de devoirs scolaires, mais pas uniquement.
Pas uniquement, parce que l'objectif, c'est d'accompagner un enfant ou un adolescent dans son parcours, lui redonner confiance, donner l'envie d'apprendre. Et au-delà des devoirs, la rencontre fait qu'ils travaillent ensemble à la question de l'ouverture culturelle, la mobilité, la projection, l'orientation, voilà, autant de thématiques qui peuvent toucher le jeune ou l'étudiant même.
Vu ce qui s'est passé les dernières années avec la fameuse crise sanitaire qui a bloqué beaucoup, beaucoup d'étudiants, comment la FEV a pu continuer à exercer et à proposer ses services ?
Notre objectif, c'était de garder le lien, notamment dans l'intérêt à la fois des étudiants qui puissent avoir toujours un engagement qui leur soit proposé et se sentir utile malgré ce contexte sanitaire, et également de ne pas pouvoir en tout cas lâcher les enfants et jeunes et leurs familles dans ce contexte sanitaire qui a amené beaucoup d'éloignement. Donc notre objectif de garder le lien, on l'a fait par distance. On a pu mener des opérations pour justement aussi permettre à des jeunes ou des enfants ou des familles d'avoir accès à l'outil ordinateur s'ils n'en avaient pas. Tout ça, ça a été travaillé avec pas mal de partenaires, mais l'idée, c'était vraiment de garder le lien, même à distance.
Et Nawel, je n'ai pas dit, vous êtes responsable de la FEV Tarn et Aveyron, qui est bien implanté dans le Tarn, dans 9 villes, et puis dans 7 villes de l'Aveyron. Chaque ville ne possède pas un établissement d'études supérieures avec des étudiants. Comment mobiliser les étudiants bénévoles vers ces villes ?
Historiquement, c'est vrai que la FEV dans le Tarn notamment est arrivée très tôt, en 1993, 2 ans après la création de la FEV à l'échelle nationale. Il y a vraiment une histoire sur ce département avec l'université Jean-François Champollion, parce que l'université a ouvert ses portes à ce moment-là et la FEV est arrivée, enfin, par la demande du coup d'université en même temps. Et vraiment, il y a eu tout un développement et un accroissement, je dirais, de l'engagement des étudiants au fil des années sur Albi. Et de fait, de l'ancrage aussi territorial de l'université à l'échelle du département, on a pu petit à petit justement développer avec les villes, en tout cas limitrophes d'Albi et également après dans le sud du département, la présence des étudiants. Aujourd'hui, c'est plus de 10% en tout cas des étudiants de Champollion qui sont engagés à la FEV et qui du coup font leur accompagnement dans Albi, mais également autour.
Comment vous repérez les familles et les besoins pour leurs enfants qui sont en difficulté ou pour les jeunes qui sont en difficulté scolaire ou sociale?
Alors le repérage se fait par nos partenaires socio-éducatifs. J'entends par là l'Éducation nationale qui est, je dirais, un partenaire majeur de la FEV depuis des années. On est également dans le cadre de la politique de la ville. L'ANFEV est un enfant de la politique de la ville et donc on travaille étroitement aussi avec les programmes de réussite éducative à l'échelle des quartiers prioritaires. Mais on a également tout ce qui est les maisons du département, les travailleurs sociaux qui nous sollicitent et pas mal de centres sociaux et partenaires associatifs qui peuvent aussi nous repérer les enfants. Ce qui permet vraiment de suivre l'enfant sur un parcours en lien avec ce partenaire qui connaît la situation familiale et qui connaît l'enfant et qui permet de faire des allers-retours en tout cas entre ce que nous on met en place avec les étudiants et comment finalement évolue l'enfant au regard du partenaire.
Il y a un dispositif de colocation solidaire que vous appelez CAPS, alors à Albi bientôt aussi sur l'Aveyron autour du campus unique. Le principe c'est de proposer une colocation étudiante à loyer modéré dans un quartier populaire, donc ça favorise le rapprochement.
Tout à fait. C'est vrai que via le mentorat, les étudiants accompagnent les enfants et vont vers le territoire où habitent l'enfant et la famille, mais ils n'y vivent pas forcément. Et là, avec les colocations à projet solidaire, l'étudiant devient habitant, voisin finalement aussi, et encore plus acteur à l'échelle du quartier. Et donc là, on met en place bien évidemment du mentorat avec ses étudiants, mais pas que. Il y a du lien intergénérationnel qui peut se faire justement à La Panouse sur le quartier, un des quartiers d'Albi. On peut avoir aussi une forte participation des étudiants capseurs, comme on les appelle, sur de l'animation de vie de quartier. La petite nouveauté justement chez nous cette année, c'est qu'on a fait l'acquisition grâce au Rotary Club d'une caravane qu'on a appelée la Vagabonde et qui est notre outil avec les étudiants capseurs pour aller vers les habitants et pour pouvoir proposer des animations autour de cette caravane et dans la caravane pour pouvoir répondre aux besoins plus prenants des habitants et des familles et des enfants du quartier. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un autre programme qui fait appel en tout cas aussi sur la question du logement étudiant. Donc on répond à différentes problématiques qui peuvent découler, mais en tout cas l'étudiant est encore plus acteur à l'échelle de son quartier vu qu'il y vit.
Vous pouvez suivre l'actualité du réseau national de la FEV à fev.org. Vous pouvez aller aussi sur les pages Facebook de la FEV Aveyron. J'imagine qu'il y a la même chose pour la FEV Tarn.
Tout à fait. Pour ne pas citer aussi, parce qu'on a peu parlé de l'Aveyron, c'est vrai qu'on a ouvert cette année un tiers-lieu étudiant au sein des HARA de Rodez. Et ça permet aussi de montrer que notre jeunesse souhaite en tout cas développer des actions à l'échelle de son territoire.
Et merci pour votre voix ensoleillée, Nawel.
Avec grand plaisir.
Merci. Parlons d'économie bleue en restant au Pays Basque avec une plateforme de financement participatif dédiée à l'océan et à l'environnement. Elle s'appelle Ecosy. Elle soutient les projets liés au monde maritime et à l'écologie, mais aussi des programmes citoyens, éducatifs ou culturels dont le dénominateur commun est le cycle de l'eau et la fragilité des écosystèmes. Ecosy fait donc la promotion de ce qu'on appelle une économie bleue en réduisant les impacts sur les ressources océaniques et une protection des écosystèmes. Plus d'un million d'euros a déjà été levé grâce à 12 000 contributeurs. Pour vous donner une idée de projet financé dernièrement, je prends l'exemple de l'association Un maillot pour la vie qui offre des parenthèses de rêves sportifs à des enfants hospitalisés avec la participation de sportifs de haut niveau. Il y a un site, c'est ecosy.com. Merci à Emma Ferret qui apportait du contenu à nos carnets cette semaine. Merci aux techniciens et techniciennes de France Inter qui leur donnaient du relief. Et merci en particulier aujourd'hui à Julien Michel.